Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Mona Ouzouf, bonjour.
Bonjour.
Donc nous avons eu la chance de vous recevoir précédemment autour donc de la cause des livres. Et je voudrais aujourd'hui avec vous voir quels sont les griefs que vous avez à l'égard de la théorie du genre. En 1995, dans Les mots des femmes, vous défendiez une singularité française et vous opposiez à une historienne américaine, pour autant qu'elle soit historienne, Joan Scott, qui est une féministe radicale américaine, qui considérait que la Révolution française avait aggravé la subordination des femmes et que donc l'exclusion des femmes était pour elle au fondement de la démocratie. Et je vous cite, la citant, « Pour Joan Scott, donc la Révolution, c'est l'incarnation de l'universel dans la particularité de l'homme blanc. » Alors, ma question c'est, qu'est-ce qui, pour vous, par opposition à cela, parce que vous vous opposez à cela, je vous cite toujours, en matière d'égalité des sexes ou tout simplement de rapport entre les sexes, oui, la Révolution a tout changé, elle a rendu illégitime toute inégalité, précaire toute distribution préétablie des rôles, elle fait de la servitude féminine une souffrance supplémentaire. Alors, pourquoi, selon vous, contrairement à elle, la Révolution française est un vecteur d'émancipation des femmes ?
Oui, alors d'abord, j'ai presque envie de vous répondre que ce n'est pas tellement moi qui me suis opposée à Joan Scott que Joan Scott qui s'est opposée à moi et qui a durci l'opposition, parce que quand j'ai écrit Les mots des femmes, je dois vous dire que j'ai écrit ce livre dans un état de totale ingénuité. Je n'avais pas du tout la conscience de mettre le pied sur un terrain miné. Quand j'ai travaillé sur la Révolution française, là je savais que je mettais le pied sur un terrain miné, parce que là, les controverses durent depuis l'événement lui-même et ont divisé la communauté historienne depuis fort longtemps. Mais en revanche, oui, j'ai fait ce livre vraiment dans un état d'innocence. J'ai découvert, après l'avoir fait, que ce n'était pas du tout le cas. Si bien que l'opposition est un peu, je crois, à renverser. Mais enfin, dire que la Révolution française a aggravé le sort des femmes, c'est une affirmation qui est, je trouve, tout à fait inexact. Alors, on voit bien pourquoi. On voit bien pourquoi, c'est que la Révolution fait une promesse d'égalité dont elle exclut immédiatement d'abord un grand nombre d'hommes, puisque le suffrage est au départ un suffrage censitaire, dont elle exclut un grand nombre d'hommes et dont elle exclut le sexe féminin tout entier. Donc, on peut partir de là en disant, et c'est ce qu'on a beaucoup fait, que le scandale est considérable. Parce qu'après tout, l'ancien régime n'a jamais prétendu à l'égalité et que du coup, l'extrême différence des statuts est beaucoup moins scandaleuse dans l'ancien régime qu'à partir de la Révolution. C'est d'ailleurs assez vrai. Mais moi, je retournerais ça comme argument plutôt en faveur de la Révolution. Alors d'abord, première chose, est-ce que la Révolution a aggravé le sort des femmes ? Les écrits qui le prétendent, ont souvent la fâcheuse tendance de confondre la législation révolutionnaire à ses débuts et la législation du Code civil, qui n'est pas du tout la même. On peut remarquer quand même que la Révolution s'en prend à la puissance paternelle comme une puissance néfaste, comme à toutes les autres formes d'autorité arbitraire. Première chose. D'autre part, la Révolution fait une loi sur le divorce. Cette loi sur le divorce, quand on la lit aujourd'hui, elle est extraordinairement libérale. Pourquoi ? Parce qu'elle accorde, il y a 7 causes de divorce, si je me souviens bien, elles sont très exactement symétriques. Autrement dit, il n'y a pas un divorce féminin, un divorce masculin, les 7 motifs de divorce sont absolument symétriques de part et d'autre. Et le divorce est rendu beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Or, on s'aperçoit que ce sont les femmes qui en ont usé, parce que ce sont elles qui ont usé de cette législation pour sortir de situations abominables où elles étaient, par exemple, battues, molestées, etc. Donc ce divorce révolutionnaire proposé à la fois aux hommes et aux femmes, de manière tout à fait égalitaire, a été utilisé par les femmes. Donc, première chose quand même qui empêche de dire tout de go que la révolution a été extrêmement violente à l'égard des femmes. Alors il est vrai qu'elle le devient petit à petit parce qu'elle s'en prend, mais pour des raisons absolument politiques, parce qu'elle s'en prend aux clubs de femmes, mais parce que ces clubs de femmes ont parti liés avec telle ou telle secte politique qui successivement est exclue ou mise à part et exclue, pourchassée par la révolution. Mais enfin, au départ, la révolution représente une avancée considérable pour les femmes. Autre exemple, et puis j'en terminerai avec ces exemples positifs, autre exemple, le mariage civil. Parce que le mariage civil met au centre du mariage le contrat mutuel entre l'homme et la femme qui n'a plus besoin d'une autorité transcendante pour le justifier. Par conséquent, là, il y a aussi une avancée absolument considérable dans la représentation du mariage. Bien. Cela étant, les choses se passent pas très bien parce que la législation révolutionnaire va évoluer petit à petit avec les thermidoriens et de plus ensuite avec l'Empire. Elle va revenir à une répression, à une contrainte, etc. Mais enfin, ne faisons pas porter aux révolutionnaires le poids de l'évolution despotique qui a suivi. Première chose. Deuxième chose, et qui est fondamentale, c'est que la Révolution française met au centre de tout, je crois, l'idée de l'éducation. C'est-à-dire que l'homme n'est pas voué à être ce qu'il est en naissant, mais qu'il peut, comme dirait l'autre, devenir. Or, cette affirmation, cette promesse, est tout de suite captée, perçue par les femmes comme une possibilité d'émancipation. Et de plus, elle donne aux femmes qui sont à l'intérieur de la famille les éducatrices de leurs enfants, elle leur donne à terme, par la possibilité de l'éducation, un rôle politique qui n'est pas encore là, mais qui peut luire à l'horizon comme une promesse. Alors on dira, oui, mais pour le moment, on ne leur donne pas ce rôle politique, mais c'est tout de même un peu un anachronisme aujourd'hui de établi dans des valeurs qui nous paraissent aller d'elles-mêmes, de ne pas comprendre que pour les hommes de la Révolution, la femme n'appartient pas encore à l'histoire, elle appartient encore à la nature. Le temps n'est pas venu, mais on commence à penser qu'il viendra. Et je crois que, il me semble, que l'argumentation selon laquelle l'exclusion des femmes est à la source même de la démocratie, c'est franchement un contresens. C'est mettre l'accent, d'ailleurs, vous savez, ça a été constant. C'est constant dans l'histoire écrite d'un point de vue féministe, intégral. C'est que toute avancée, parce qu'elle est modeste, est vue comme un retard, comme une arriération. C'est quand même s'aveugler sur le sens de l'histoire. De la même manière, on a fait grief aux lois scolaires de la Troisième République d'avoir établi dans l'enseignement des filles et dans l'enseignement des garçons des matières différentes de part et d'autre du mur qui séparait l'école des filles de l'école des garçons. On a maintenu du jardinage et de la menuiserie pour les garçons et de la couture pour les filles. Et de là, on a entendu ensuite une sorte de véhément tollé. Comment est-ce possible ? Mais c'était tout à fait rationnel, il me semble, de maintenir à la fin du XIXe siècle de la couture dans l'enseignement des filles et du jardinage dans l'enseignement des garçons. C'était du simple bon sens. C'est d'ailleurs un simple bon sens qu'on retrouverait encore chez Condorcet quand il dit « ne critiquez pas les femmes parce qu'elles sont coquettes, parce que la coquetterie chez elles est un calcul rationnel. » C'est un simple calcul rationnel. Quand une touche de rouge sur les lèvres, il dit pas ça, mais c'est à peu près ça, ou quand la couleur d'un habit décide du destin d'une femme, on ne voit pas pourquoi elle ne prendrait pas ces éléments en compte. Donc, on fait haro sur Jules Ferry parce qu'il maintient des travaux d'aiguille à l'école des filles, et on est aveugle à l'idée quand même formidable que l'enseignement de l'histoire et l'enseignement de l'instruction civique sont rigoureusement identiques dans l'école républicaine pour les filles et les garçons. Qu'est-ce que ça veut dire, sinon qu'on pourvoit les femmes d'un rôle qui est, lui aussi, un rôle civique et politique. Ce qui est l'évidence même dans l'école républicaine, puisque un des thèmes des républicains, un des thèmes constants, c'est que la fracture française, c'est la fracture à l'intérieur même des ménages, entre les femmes qui ont partie liée encore avec l'Ancien Régime et les hommes qui se déclarent fils de 89. Donc, il s'agit pour l'enseignement républicain de réparer cette fracture-là en donnant aux femmes une éducation historique, civique, patriotique, si vous voulez. Donc, c'est un peu un contresens. Voilà, j'ai un peu protesté contre ce contresens qui fait passer les avancées, parce qu'elles sont modestes, qu'elles ne vont pas encore jusqu'au bout, pour des archaïsmes ou des arriérations ou des volontés de nuire au sexe féminin tout entier.
Alors, contrairement à des féministes américaines en particulier, donc plutôt radicales, vous, vous considérez qu'il y a en France une manière particulière d'aménager les rapports entre les hommes et les femmes, et vous dites qu'il y a là une capacité à négocier un rapport heureux entre la différence et l'égalité, non en les juxtaposant, mais en les hiérarchisant. Et pour vous, dites-vous, dans la préface donc à Récit d'une patrie littéraire, vous dites « La France est un pays allergique à la guerre des sexes, amical au commerce des hommes et des femmes. » Donc, quelle est cette galanterie à la française qu'on va, puis on va voir après, troisième temps, au moment de l'affaire DSK, mais qu'on va vous opposer. Quelle est cette galanterie à la française, cette manière française de concevoir les rapports entre les hommes et les femmes qui suppose qu'il n'y a pas de guerre et que nous sommes dans des rapports heureux qui réussissent à négocier la différence et l'égalité?
Oui, alors bien entendu, présenté comme ça, disant qu'il y a un rapport heureux entre les sexes en France, ce que je crois, mais il est facile de ridiculiser cette affirmation en la taxant d'irénisme ou de niaiserie même. La France, c'est le pays des gentilles femmes, des bons vins, des coteaux modérés, bref. Donc, une France presque chimérique, construite uniquement pour les besoins de la cause. En réalité, je crois quand même que la France hérite, et c'est aussi un des héritages de la culture aristocratique dans la culture républicaine, la France était le pays où la conversation entre les sexes a été un talent national. Un talent national honoré comme tel, développé comme tel, et qui est à l'origine des grandes réussites littéraires françaises. Je crois qu'il reste quelque chose comme cela, et dire, comme on me l'a opposé si souvent, qu'il s'agit seulement des mœurs d'une toute petite élite, pas du tout représentative de la France en général, là, je résiste aussi contre cette affirmation, parce que je crois que ce modèle qu'on peut appeler aristocratique s'est diffusé très largement et dans des couches très modestes de la population. Par exemple, dans combien de familles rurales françaises, pas forcément très cultivées, qui n'ont pas lu énormément de livres, la femme n'est pas désignée par son mari comme mon gouvernement. Voici mon gouvernement. C'est drôle parce que je l'ai entendu dans diverses provinces françaises, ce mot, voilà mon gouvernement. Et ça me fait toujours penser au mot de Rousseau qui, dans l'Émile, montre Sophie à Émile en disant « Voici votre précepteur ». Il montre la femme en disant « Voici votre précepteur ». Ce précepteur, dans la littérature, dans l'Émile de Rousseau, devient le gouvernement dans le parler quasi paysan de la France profonde. Donc je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui reste très ancré dans les mœurs françaises et qui traverse les siècles. Alors, vous avez parlé de galanterie. Moi, je pense toujours que la galanterie est une manière de renverser le rapport entre la force et la faiblesse. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est fort, c'est la femme qui est faible. Oserais-je le dire, c'est un fait de nature, ce qui est devenu un gros mot. Désormais, on ne peut plus dire qu'il y a des composantes naturelles, tout est construit, tout est culturel, tout est inventé, très bien. Là-dessus, on peut revenir. Mais en admettant que j'ai raison, c'est-à-dire que naturellement, L'homme a pour lui la force, l'homme peut forcer, ce qui est quand même évident. Et la femme faible, la galanterie, est un moyen ingénieux, raffiné, civilisé, de transformer la force en faiblesse. Celui qui est fort se fait faible devant celui qui est faible, qui du coup devient fort. Et donc, il y a une manière ingénieuse de corriger ce que la nature a, nous donne, la donne que nous distribue la nature. Et donc, il me semble qu'il y a là quelque chose de précieux, parce que c'est une manière de corriger la nature par l'art, et c'est un art extrêmement raffiné. Alors, est-ce que dans cet art, la femme est, comme on le dit, seulement un objet ? Je ne le crois pas du tout. Elle n'est pas du tout réduite à un rôle d'objet. C'est un même manière que dans la coquetterie, la femme est un sujet qui se fait objet, mais qui sait qu'elle est un sujet. Bref, il y a un adoucissement global des mœurs qui est produit par la galanterie et par les manières galantes. Et c'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas crier haro sur la galanterie.
Alors, je voudrais terminer sur un troisième temps qui est l'affaire DSK. Donc, il se trouve qu'au moment de l'affaire DSK, vous avez été personnellement mis en cause. Il se trouve donc que Éric Fassin d'un côté, mais aussi Didier Ribon, et je vais citer Didier Ribon, dans un article donc au journal Libération du 22 juin 2011, intitulé « Féminisme à la française » ou « Néoconservateur », il s'en prend, dans cet article, à Mona Ouzouf, vous-même donc, Claude Habib et Irène Théry, et dit que ces féministes à la française, que ce qu'elles disent, ces féministes à la française, donc vous, est un mélange, je le cite, « fort classique et transnational » de poncifs antiféministes et d'homophobie militante. Donc, on peut considérer qu'il y a une injure qui vous a été faite, enfin quelque chose qui, effectivement, relève au minimum de la discourtoisie, comme ça, de la démocratie des idées, qui laisse à supposer qu'effectivement, on vous met en dehors du champ de la discussion possible. Donc, d'une part, est-ce que vous avez été, vous, blessé par ce genre d'attaque-là ? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas là une suprématie de plus en plus forte de cette deuxième théorie du genre, telle que vous le définissiez, que vous définissiez le genre de deux manières différentes, soit comme quelque chose de cumulatif, de culturel, soit comme quelque chose de pouvoir, de culturel, de seulement ce qui est construit. Donc comment est-ce que vous avez reçu cela et comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'état actuel de cette opposition qui existerait entre les tenants de la courtoisie ou de la,
des manières
à la française que vous défendez, et puis les militants du genre qui considèrent que toutes les occasions sont bonnes, sans doute, pour arriver à cette suprématie du genre sur toute autre forme de négociation ou de relation homme-femme.
Écoutez, ça ne m'a pas du tout blessé parce que j'ai trouvé ça tellement extravagant que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui passe très, très au loin, que je considère avec curiosité, mais non, qui ne saurait m'atteindre d'aucune façon. Alors, le grief qui m'est fait, c'est d'être une fausse féministe. Bien. Il y a mille et une définitions du féminisme. Je me sens extraordinairement féministe, d'une certaine manière, parce que je me réjouis de toute activité, de tout domaine, de toute réalisation qui était jusque-là étranger aux femmes et que les femmes conquièrent peu à peu. Toute avancée ou conquête en ce domaine me réjouit profondément. En ce sens, je me sens tout à fait féministe. D'autre part, autre lien avec mon enfance, j'ai été élevée dans un univers de femmes qui ne comptaient que sur elles-mêmes pour survivre et qui donc ont toujours enseigné que les femmes, la première chose à faire était de ne pas dépendre. Premier impératif féminin, surtout, ne pas dépendre d'un homme. En cela, je me sens tout à fait féministe. Par ailleurs, je ferai volontiers mienne la définition que Jules Renard donne du féminisme. Être féministe, c'est ne pas compter sur le prince charmant. Et c'est à peu près ça. D'ailleurs, je le corrigerai, je ne suis plus sûre du tout de la citation. Je ne sais pas si Jules Renard dit croire ou compter sur. Si Jules Renard dit croire au prince charmant, là je ne le suis pas. On peut être féministe et continuer à croire au prince charmant, mais être féministe, c'est ne pas compter sur lui. Voilà. Donc, pour tout cela, je me sens, profondément féministe. Si maintenant féministe veut dire interpréter tous les événements historiques ou tous les événements culturels comme une guerre des sexes, là, je crois qu'on entre dans un domaine totalement extravagant. Bon, qui m'est complètement étranger. Enfin, j'ai pas très envie de rompre des lances avec les partisans de cette guerre, de cette domination masculine qui inébranlée, parce que ça me paraît complètement faux. Qu'est-ce que c'est que la grande révolution de notre siècle ou du dernier siècle? C'est évidemment la contraception, pour moi. Or, la contraception est quelque chose qui change, mais complètement, l'existence des femmes. Ma génération appartient à un ancien régime des femmes. Et les adolescentes qui avaient 20 ans en 1950 étaient des adolescentes qui ne vivaient absolument pas ce que vivent les filles, mes filles et mes petites filles d'aujourd'hui, qui vivaient dans un monde absolument terrorisé par les conséquences du rapport sexuel éventuel, etc. C'était un monde vraiment extraordinairement cruel pour les femmes. La contraception, c'est la maîtrise par les femmes de ce qui, jusque-là, avait été immaîtrisable. C'est immense, c'est absolument extraordinaire. Alors, ne pas tenir compte de ça, penser que la domination masculine s'exerce exactement comme elle s'exerçait avant, c'est une folie, c'est ne rien voir, à mes yeux. C'est pour ça que ça ne me touche pas beaucoup, parce que les choses sont en marche, le mouvement est inarrêtable, et que bien entendu, comme partout, il y a des poches de résistance, les comportements persistent très longtemps alors que les raisons de ces comportements ont disparu, mais malgré tout, voilà, la libération des femmes, elle ne luit plus à l'horizon comme une promesse incertaine, mais elle est là et elle manifeste tous les jours ses effets.
Eh bien, Mona Ouzouf, merci beaucoup. Donc, je renvoie à nos auditeurs donc, à Récits d'une patrie littéraire, et dedans en particulier, donc, il y a dans Les mots des femmes, le portrait, les portraits, différents portraits que vous faites de toutes ces femmes qui comptent dans ce mouvement de libération ou de galanterie tel que ce mouvement existe entre les hommes et les femmes. Et puis, je renvoie donc à la préface et puis la postface que vous avez fait à ces livres-là qui montrent bien effectivement les lignes de séparation, de brisure entre les théories du genre tel qu'il se développe de plus en plus aujourd'hui et puis cet aménagement tel que vous le décelez historiquement et que vous cherchez à maintenir entre les hommes et les femmes qui recouvrent cette idée de la courtoisie, de la galanterie qui existe entre les hommes et les femmes. Mona Ouzouf, merci.
Ah, merci à vous.